Sipping. Bonjour et bienvenue dans votre mag sur CFM Cahors. Ce monde offre peu de certitudes, il en est pourtant une dont on se passerait volontiers. Les eaux montent. Et alors, qu'est-ce qui se passerait si votre ville devenait une île tout simplement? Eh bien, 16 auteurs projettent un phare dans le brouillard de notre futur et donnent à entendre l'écho du clapot à venir. 16 nouvelles à découvrir dans le nouveau livre édité par Le Chien à deux queues, la maison d'édition de Cahors. Ça s'appelle Ma ville est une île. On en parle avec Stéphane Hébrard de l'association Le Chien à deux queues. Bienvenue, vous êtes sur CFM Cahors, c'est le mag. Dans le mag, on aime énormément les livres, ça vous le savez. On a très souvent des chroniques littéraires avec les libraires lotois. On reçoit aussi des auteurs qui écrivent là, des livres très bien, magnifiques. Mais le livre que l'on va sortir là, on ne va pas recevoir un seul auteur. On va en recevoir une bonne quinzaine en tout cas, avec Stéphane Hébrard qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Yannick.
Alors Stéphane, éditeur chez Le Chien à deux queues, qui est, rappelons-le, une maison d'édition associative.
Oui, tout à fait.
Donc le but, et disons-le clairement, c'est pas vraiment de gagner de l'argent.
Non, on veut se faire plaisir avec cette maison d'édition qu'on a montée il y a 3 ans maintenant. On sort quelques bouquins par an et voilà, le but du jeu, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux lecteurs. Et je crois qu'on y arrive pas trop mal.
Et là, tu es venu nous présenter le dernier livre qui vient de sortir, Ma ville est une île, sachant que pendant le confinement, vous aviez sorti Anthropocène, mon amour, regardez l'homme au-delà de l'apocalypse. Est-ce que ça va bien là chez vous? Vous avez le moral là, au chien de queue? Parce que là, quand on connaît l'histoire, vous avez ces 16 nouvelles du futur pour Ma ville est une île. Vous avez demandé à des auteurs d'imaginer ce qu'était la ville avec la montée des eaux. Tout va bien.
Ouais,
vous
n'êtes
pas suicidaire.
On est très pessimiste. Hein. Non,
ouais,
non, suicidaire, non, quand même pas. Non. Parce que ce qui nous sauve, en fait, c'est notre énergie. Alors, je dis souvent qu'on est des pessimistes volontaires et engagés. C'est-à-dire qu'on pense effectivement qu'on va droit à la catastrophe. Hein. Je pense qu'il y a pas mal d'indicateurs qui sont vraiment au rouge-violet. Mais on pense que si on fait les choses pas trop mal, on pourra atterrir de façon correcte et limiter la casse. Et donc, c'est ce qu'on veut faire avec nos livres, avec Anthropocène et avec Ma ville est une île, là, le petit dernier. C'est essayer de voir comment on pourrait s'organiser, comment est-ce qu'on pourrait penser la société et puis soi-même, se réinventer soi-même. Après, la catastrophe qui peut-être arrivera, mais peut-être qu'elle n'arrivera pas. Il y a toujours une lueur d'espoir.
On espère. Bien que vous êtes toujours dans l'actualité, parce qu'Anthropocène, mon amour, on se souvient, ça parle quand même d'une vision futuriste avec des épidémies et autres. Et vous l'avez sorti comme par hasard. Enfin, c'est même le hasard complet.
Ouais,
parce que c'est un projet qui date depuis... vous mettez combien de temps pour un projet? Un an, au moins?
Oui, il faut au moins un an. Ouais. Ouais, entre le moment où on pense le projet, on le diffuse sur Internet. Donc, ça passe par un appel à texte. Hein. Voilà, il y a des sites Internet qui sont dédiés à ça. Il y en a pas mal maintenant, ça se développe, hein, autour de la nouvelle. Vraiment beaucoup. Je trouve que la nouvelle, en ce moment, a le vent en poupe. Hein. Il y en a de plus en plus. C'est un format intéressant et donc on lance un appel à texte et là on attend les retours. Donc voilà, pour Anthropocène, on en a une cinquantaine. Là, pour ma ville, on en a eu une centaine. Donc ça montre bien qu'il y a, ça répond quand même à une préoccupation chez les gens, chez beaucoup d'auteurs. Alors c'est des auteurs, peu sont professionnels, il y en a, mais la plupart sont c'est toi et moi, quoi. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont juste envie d'écrire. Et donc voilà, on a reçu une centaine de textes et après commence le travail d'éditeur, de sélection.
Alors etc. Avant d'en arriver là, Stéphane, est-ce que vous leur imposez un cahier des charges bien précis? Parce que j'imagine qu'il ne faut pas non plus, si vous demandez une nouvelle, si elle fait 15 pages, ça ne va pas le faire dans le livre que vous avez prévu peut-être.
Alors là, c'était 20 000 signes maximum. C'est pas très long, hein, finalement, 20 000 signes.
Mais ça va vite, ouais.
Mais ça va vite, ouais. On voulait quelque chose de... Enfin, la nouvelle, on aime bien quand elles sont assez percutantes, pas trop longues, hein, quand ça ressemble vraiment à un tir tendu. Et donc, ça explique le fait qu'on ait beaucoup plus d'auteurs sur celui-là que sur Anthropocène. Et voilà, donc on en a sélectionné 16, donc autour du thème de la montée des eaux.
Est-ce que le sujet était plus facile peut-être à l'imagination?
Oui, je pense, parce qu'il est plus, plus resserré et plus visuel aussi. On imagine bien sa ville entourée d'eau, d'eau qui monte. Chacun est capable de s'imaginer ça. Et je veux dire que c'est un exercice assez plaisant, en fait, quoi. Parce que chacun est obligé de réorganiser sa vie. C'est toute la société qui évolue, qui se modifie. Et donc le thème était assez porteur, effectivement. Et puis, il claque bien quand même. Ma ville est une île. Ça sonne bien et ça, je pense que ça a joué.
On sait de quoi on parle. Là, c'est, voilà. Maintenant, c'est sûr. Et du coup, ces auteurs-là, comment vous les avez sélectionnés? Parce que vous n'êtes que deux.
Ouais.
Ça prend combien de temps pour sélectionner parmi une centaine de textes? Il faut que vous en preniez 16.
Ouais.
Ça va pas être facile. Hein.
Ouais, effectivement, il y a un travail de tri. Alors, sur la centaine, il y en a tout de suite pas mal qu'on écarte parce que soit ils sont trop longs, soit ils répondent pas au cahier des charges, effectivement. Et puis après, on se retrouve avec une pile de textes. Et là, avec mon ami Yvan, on s'assoit autour d'une table et on discute. Voilà, qu'est-ce que tu penses de celui-ci? Qu'est-ce que tu penses de celui-là? Donc, on n'est pas forcément d'accord, hein, évidemment. Donc, on est obligé d'argumenter. Moi, je verrais bien plutôt celui-ci ou celui-là. Mais on essaye de rester assez ouvert, de pas nous enfermer, nous, dans nos préférences. On essaye d'imaginer ce que des lecteurs très différents de nous pourraient imaginer et pourraient vouloir lire, quoi.
Alors, ce qui est intéressant, je suis en train de rechercher. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez demandé aussi à ces auteurs de se faire un petit texte de présentation.
Oui, la barbe autographie.
Ouais. La barbe autographie. Ah, c'est comme ça que vous l'avez appelé.
Oui, sympa,
d'accord. Et effectivement, il reste bien dans le thème. Hein. Par exemple, je vois Anaïs Pali qui marque « Anaïs a grandi face à la mer, les pieds plantés dans le sable d'Omaha ». Bon, d'accord, là, jusque-là, ça va. Sarah Kugel, qui, dans sa prime jeunesse, se liquéfiait littéralement à l'idée de finir aspiré par le siphon de la baignoire. Là, on commence déjà
peu torturé. Il y a quelques petites psychoses liées à l'eau.
Constance Vega a une passion secrète pour les bains de pied qu'elle pratique dans tous les points d'eau. Là, on plonge presque dans le fétichisme. Et puis, je voudrais quand même qu'il y ait un mot sur Philippe Casa, marque « Je suis né d'un père barracuda et d'une mère éponge ». J'ai eu pour frère un poulpe nommé Waterman et pour sœur une carpe nommée Diem, forcément.
Voilà, carpe Diem.
Ouais, qui est Philippe Casa?
Philippe Casa, c'est un grand monsieur de la bande dessinée, en fait. On ne savait pas, il nous a envoyé un texte l'année dernière. Moi, je ne connaissais pas Casa. J'avais déjà vu ses dessins, mais je ne l'avais pas identifié. Et il écrit tout le temps des nouvelles assez loufoques, comme ça, très drôles. Et assez décapante, assez satirique, hein, sur ce qu'est l'homme et son devenir. Et c'est quelqu'un, on est assez fiers de l'avoir et de le connaître parce que c'était un grand monsieur de la bande dessinée. Il a toujours dessiné des choses très très noires, mais aussi très très utopiques, c'était très années 70. Hein.
Déjà dans les années 70, on n'avait pas une vision très glorieuse de l'avenir. Hein.
C'est ça. Ouais, il y avait aussi tout ce côté où on sentait venir tout ce qui nous arrive maintenant, en fait. Hein. Et donc Casa le mettait en scène dans ses dessins. Et il a fait des films. Il a beaucoup dessiné pour au même titre que des gens comme Moebius ou Druyer. Enfin, c'était vraiment un grand monsieur. Et maintenant, il dessine plus. Mais il écrit, voilà.
Et il a participé en plus à Anthropocène, mon amour.
Ouais, voilà, c'est la deuxième fois qu'il nous fait le plaisir et l'honneur d'écrire chez nous. Ouais.
Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ces textes?
Ah, qu'est-ce qui m'a plu? Moi, c'était ce qui me plaît, en fait, c'est la diversité des textes et la diversité des approches. C'est à chaque fois que je lis un texte comme ça, j'ai l'impression de découvrir quelqu'un, de le rencontrer. Et de rentrer dans ses pensées, dans son intimité, sachant que c'est ce qu'il nous présente, hein, lui et quelqu'un d'autre. Mais moi, c'est ça que j'aime dans les textes, c'est la rencontre, quoi, hein. C'est un peu bateau de dire ça, mais c'est quand je reçois un texte, un nouveau texte, on parlait des appels à texte, et puis quand on reçoit tous les manuscrits, c'est toujours un plaisir de lire les premières lignes comme ça. Le plaisir de la rencontre, de voir quelqu'un. Voilà, c'est...
Vous les avez jamais vus, les auteurs?
Et alors si, on commence à en voir. On en a vu une qui est venue parce qu'elle a des attaches dans le Lot. D'autres ont promis de venir nous voir. Bon, ça s'est pas encore fait. Bon, il y a eu les confinements, etc. Oui. Ça a été très compliqué. Ouais, effectivement, tout se passe par Internet. Alors, ça, c'est un peu dommage, mais en même temps, c'est l'avantage. Sans ça, on pourrait pas, sans ces moyens de communication, on pourrait pas faire un livre comme ça, avec des auteurs qui viennent de partout. Hein. Il y a des Suisses, il y a des Belges, ça vient du Portugal. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que ça nous manque. On aimerait bien faire un grand symposium des gens flippés par notre futur. Et la montée des eaux.
Bon, ça viendra, forcément. Ouais, je pense que ça pourra se faire.
On va attendre que l'eau monte et puis il vient tout s'envoyer en barque.
Voilà, dans un cargo. On se fait une croisière au bord du Lot qui aura grandi maintenant.
Ouais, méfions-nous. Hein.
Question comme ça, alors plutôt, comment dirais-je, peut-être indiscrète. Comment on fait pour rémunérer ces auteurs sur un livre?
Oh ben là, tout de suite, on leur dit qu'ils vont pas faire fortune,
oui, c'est
qu'ils
sûr.
Vont gagner l'équivalent d'une bouteille de vin bio en droit d'auteur. Hein. Donc on leur paye des droits d'auteur, on leur offre des ouvrages, des livres. Mais en même temps, et c'est là qu'est un petit peu notre astuce, c'est que eux-mêmes nous achètent des livres. Donc fait, les auteurs nous achètent des livres pour les offrir, pour les revendre aussi de leur côté.
Ils le font vraiment avec passion, alors, en fait.
C'est super, parce que même l'an dernier, ils ont commencé à nous faire un site internet. Non, le site internet, on l'avait déjà. C'est la page Facebook qu'on n'avait pas. Donc, nous, on n'est pas Facebook du tout. Et donc, quand ils ont compris qu'on était vraiment nuls en Facebook, ils s'y sont mis eux-mêmes et ils se sont pris par la main. Ils nous ont fait une page Facebook qu'ils alimentent toujours. Donc ouais, c'est le côté sympa. C'était un peu le but du jeu, c'est de faire créer une petite communauté quand même. Voilà.
Qu'est-ce qui va se passer après ce livre? Est-ce que vous avez déjà lancé un appel à texte?
Non, mais on y pense.
Et vous avez déjà une idée du thème encore apocalyptique,
c'est pas encore,
peut-être?
Oui, toujours la même veine. Hein, la catastrophe se rapproche toujours un petit peu plus chaque jour. Mais on ne sait pas encore trop. On a quelques idées, mais rien d'arrêté. Il va falloir qu'on décide ça parce que le calendrier tourne. Mais bon, oui, on devrait bientôt sortir un nouvel appel à texte.
Ouais. Stéphane Hébrard, là, je vais te poser une question en tant qu'éditeur, mais en même temps que professeur, puisque c'est ton métier. Est-ce que tu, là, maintenant, à cette époque, à l'époque smartphone, tablette, est-ce que les jeunes aiment encore lire? Est-ce que tu as pu remarquer ça? Écrire aussi?
C'est une question compliquée, je dirais oui et non. C'est-à-dire que là, quand même, depuis quelques années, je trouve qu'il y a eu une invasion, on peut le dire, vraiment d'Instagram et TikTok, qui est assez affolante. Et qui, du coup, prend beaucoup de temps aux jeunes.
C'est très énergivore.
À 18 ans, on va dire. Et c'est très chronophage pour eux. Et du coup, ils se détachent de la lecture. Ça, c'est une évidence. Après, je me rends compte aussi que quand on leur met un bouquin qui leur plaît, ils sont un petit peu rebutés. Il faut arriver à leur mettre entre les mains. Mais quand même, on peut y arriver. Et là, ils sont capables de devenir de fervents lecteurs. Et j'en connais quelques-uns qui lisent un bouquin par semaine, enfin, qui vraiment dévorent. Pour ce qui est de l'écriture, là, c'est encore mieux. Je trouve que c'est... mes élèves, effectivement, je leur fais écrire le plus possible.
Est-ce que tu es prof de...
De lettres.
Voilà. Tout s'explique.
Et ils aiment ça. Vraiment, ils aiment ça parce que c'est un moyen d'expression. Ils sentent qu'ils peuvent lâcher des trucs. C'est le plaisir, un plaisir enfantin de se raconter des histoires. Ça marche encore.
Après, est-ce que c'est pas aussi, je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un peu aussi la faute au système scolaire? Parce que quand on veut faire étudier un livre, on leur met sur table des livres, faut dire, chiant, quoi.
Oui, ça peut arriver.
Du Baudelaire, t'as pas forcément envie.
Je dirais pas que Baudelaire est chiant. C'est une question de présentation, de dosage. Effectivement, il faut pas les assommer. Ça, c'est tout le, toute la difficulté de l'exercice. En même temps, moi, je défends assez les livres, on va dire classiques, parce que c'est quand même dans ces vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Mmh. Et qu'on trouve une densité d'idées qu'on trouve assez rarement ailleurs, quoi. Voilà.
Ça pourrait être une bonne idée d'un prochain recueil de nouvelles, ça, le fait que les jeunes passent plus de temps devant les téléphones et autres, et qu'au bout d'un moment, les livres disparaissent, par exemple.
Ouais, les livres disparaissent. Bon, ça a déjà été fait, mais... Ce serait trop dramatique, j'ose pas
là tu serais touché en plein cœur là.
Ouais mais on y pense, c'est une possibilité. Après, si les livres disparaissent, si l'objet livre disparaît, ce serait dommage, mais je pense pas que l'écriture en tant que telle disparaisse. Ça me paraît difficile. S'il y a écriture, il y a lecture. Il restera toujours de toute façon un carré quand même très important de lecteurs, parce que l'image pourra pas tout remplacer, je pense pas.
Après, en discutant avec des libraires, et même c'est peut-être un constat que tu as pu faire, Stéphane Hébrard, et que en tout cas moi personnellement j'ai fait, c'est vrai qu'à une époque on voulait révolutionner le livre, je crois que c'était avec Amazon d'ailleurs, avec sa fameuse liseuse, et puis finalement on se rend compte que le livre papier, est là, il résiste, ouais, et on préfère
ça. C'est un objet qui a quand même plusieurs millénaires d'existence.
Et on aime le contact, le toucher du papier, l'odeur quand il sort de l'imprimante.
Il y a quelque chose de physique, une rencontre physique avec un objet qui, à mon avis, il n'est pas prêt de disparaître. Et puis, contrairement à la tablette, on n'a pas besoin de le recharger. Il n'a pas besoin d'électricité. Il marche bien aussi avec le doigt. On arrive à tourner les pages. C'est finalement comme une liseuse. Moi, j'en ai une de liseuse. J'en ai acheté une, mais je m'en sers jamais, en fait. Hein. Et le livre électronique, nous, on vend nos livres. On vend des versions numériques. Mais en fait, ça ne marche pas. Très peu de ventes. Il est moins cher, mais beaucoup moins cher. Mais les gens ne se ruent pas dessus, parce que j'ai l'impression que ça. Il y a quelque chose qui ne passe pas. La lecture et le scintillement de l'écran ne fonctionnent pas. Quoi.
Voilà. Et puis, avoir une bibliothèque remplie de livres, c'est toujours plus chatoyant.
Ouais, c'est plus intéressant qu'avoir une tablette sur des étagères vides.
Ouais, c'est ça. Même ne pas avoir d'étagère du tout et avoir un mur blanc. Voilà. En tout cas, ça s'appelle « Ma ville est une île ». C'est le nouveau recueil de nouvelles de la maison d'édition Le Chien à deux queues. La maison d'édition Cadurcienne. Le site internet lechienadequeue.fr, et donc du coup je viens d'apprendre qu'il y a une page Facebook qui s'appelle Le Chien de Queue.
Je sais pas. Oui, sûrement.
Ah oui, t'es ça, vraiment pas fait le chien quoi.
Non, toujours pas. J'y arrive
pas. Bon, bah, très bien. En tout cas, on peut le trouver où?
Alors, dans les librairies de Cahors, dans toutes les librairies, et aussi vous pouvez le commander sur le site du Chien à deux queues, et vous pouvez l'acheter en PayPal.
lechienadequeue.fr.
Voilà.
Et puis, au prochain roman.
Ouais,
prochain livre qui va sortir. Ouais. Je dis roman, mais ça se trouve, ça sera peut-être pas ça.
Il y en a un en préparation, effectivement. Ouais.
Littérature jeunesse?
Littérature jeunesse, cette fois. On va partir dans l'espace, et là, c'est plus... c'est une grande saga galactique.
Dans combien de temps?
Dans combien de temps, j'espère avant Noël.
Ah, donc on va se revoir très rapidement, Stéphane Hébrard.
Très bien, avec plaisir, merci.
Merci, à bientôt. Concert au Doc de Cahors ce vendredi avec du rock comme vous allez sûrement l'aimer. La Phase et The Coopers sont effectivement en concert au Doc de Cahors. Mais comment vous décrire ce genre de rock? Je crois que le meilleur moyen, c'est tout simplement d'en écouter un morceau. Si on écoutait par exemple Slave de The Coopers que vous retrouverez au Doc de Cahors, attention, ça déménage.
Motherfucker, and you're tired of making noise. I know you want attention. continue to watch your TV on your couch, eating industry of food and getting fat. Like your car that you pay for every month. You don't have the budget, but you've got the expensive one. Close mind, violent, useless. You might be the reason of our extinction, yeah. No matter what, no questions in your mind. There's no one left inside. Do you know who you are? Hey, hey, hey. You buy no matter what. Hey, hey, hey. No questions in your mind. Hey, hey, hey. There's no one left inside.
Les Coppers qui seront en concert avec La Phase ce vendredi au Doc de Cahors, qui ont un message pour vous. Si tu penses que la dignité humaine est en déclin, que l'individualisme prend le dessus et que l'air devient irrespirable, rejoins-nous pour hurler ta colère et ton indignation face aux puissants de ce monde. Et vous avez compris que c'était vraiment du rock outragé, quoi. Si vous aimez Rage Against the Machine, The Prodigy, forcément vous allez aimer The Coppers en concert. Ce vendredi 19 novembre au Doc de Cahors, et je peux vous dire qu'à 16h30, eh bien restez à l'écoute de CFM Cahors, puisque nous aurons des entrées à vous faire gagner. Un autre domaine d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi intéressant, c'est un peu plus calme aussi. C'est ce colloque sur un demi-siècle d'archéologie à Cahors qui débutera demain et vendredi à l'espace congrès Clément Marot sur la place Bessières. Alors le week-end, il y aura une exposition de panneaux présentés au rez-de-chaussée de l'espace Clément Marot qui reprendra les grands thèmes du colloque. C'est vrai que depuis les années 70, on fait beaucoup de recherches et de fouilles archéologiques au sein de Cahors. Et en fait, ce colloque, c'est tout simplement le bilan de ces recherches. C'est organisé par la Direction régionale des affaires culturelles d'Occitanie, le département du Lot, la ville de Cahors et l'Institut national de recherche archéologique préventive. Et donc, vous aurez un point sur ces données. Alors, ça commence dès demain 9h, avec des 8h45 même d'ailleurs, avec différents discours. Il y aura histoire, réglementation et pratique de l'archéologie à Cahors, l'aqueduc de la vallée du Vers à Cahors, la voirie et les réseaux, synthèse de l'habitat à Cahors, les monuments publics, un nouveau quartier dans la plaine du Pal, les fous, la fouille des allées Fénelon. Il faut vous inscrire, vous allez sur cahorsaglo.fr pour plus d'informations et pour avoir le lien pour vous inscrire, c'est gratuit évidemment. Et puis pour pour l'exposition, on aura l'occasion d'en reparler demain, puisque Abel Rachi, qui est justement délégué à la médiation culturelle et du patrimoine surtout de la ville de Cahors, sera notre invité pour parler de ce colloque et de cette exposition que vous allez pouvoir regarder sur deux week-ends. Voilà, et il y en a des choses qui ont été découvertes à Cahors. C'est la fin de ce magazine, à retrouver en rediffusion à 17h et à 21h30, et puis en podcast sur cfmradio.fr. Merci d'être avec nous. On continue à rester ensemble pour l'après-midi. Le journal, c'est dans un instant.